RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir, nous recevons Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron est en déplacement à Mulhouse. Il s'exprime en ce moment même sur la reconquête républicaine et annoncer un plan qui va se faire en plusieurs étapes pour trouver des réponses à ce qu'il appelle le séparatisme. Alors le président ne veut pas parler de communautarisme. Pourquoi ce choix, dans le fond, sémantique ? Est-ce que ça veut dire qu'il considère que le communautarisme est quelque chose, on va dire, de trop impliquant ou de trop dilué ?
Communautarisme, ça fait penser à communauté, c'est un peu galvaudé, on peut parler de mille et une communautés. Séparatisme, on nomme le problème. Il s'agit d'un système de personnes qui vivent séparées de la République et des valeurs de la République. Mmh. Et c'est bien ça qui est inquiétant. Et c'est pour ça que nous avons mené cette expérimentation pendant 2 ans sur 15 quartiers sur lesquels il y avait ces signaux de séparatisme, c'est-à-dire des gens qui vivent en marge de la société et qui, finalement, privent les enfants, les femmes, d'être intégrés à la République, d'avoir accès à des écoles classiques et qui ne respectent pas ces valeurs de la République.
La question qu'on peut se poser, c'est qu'il a mis du temps, quand même, à s'exprimer sur ce sujet. Le temps de quoi ? De mettre dans le fond, de forger sa doctrine, parce qu'on peut pas s'empêcher de se dire ça arrive un peu tard et peut-être un peu opportunément à quelques semaines des municipales.
C'est une doctrine qui est fondée sur une expérimentation. C'est-à-dire que nous avons commencé par tester des choses. Des choses qui fonctionnent. C'est-à-dire sur ces 15 quartiers, on a mis en évidence qu'en faisant travailler l'ensemble des services de l'État, mais également avec les associations, le fait de faire travailler les policiers, la justice, etc., pour à la fois systématiquement repérer des cas de gens qui ne respectent pas la loi, mais remettre aussi des enfants qui ne sont pas à l'école, fermer des débits de boissons où l'on tient des propos contre la République, contre la France, fermer des organisations sportives qui, sous couvert de faire du sport à vos enfants, en réalité prodiguent des valeurs qui ne sont pas les nôtres.
Mais c'est pas un peu trop tard ?
Je ne crois pas parce que nous avons fait la preuve de concept. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans ces quartiers, dans ces 15 quartiers, et Mulhouse en est l'un d'eux, nous avons divisé par 4 les actes de violence, premier élément. Et ça, c'est, je veux dire, un vrai résultat. Et d'autre part, on voit que ça marche. C'est-à-dire qu'on remet de la République et on remet de la sérénité dans ces quartiers. Donc sur cette base-là, on est aujourd'hui capable de dire il faut élargir cette approche, mais on le fait sur des actes, sur des faits, pas sur des paroles.
Vous disiez qu'en parlant de séparatisme, c'est une façon de nommer les choses. Mais est-ce que vous pensez qu'elle ne serait pas nommée encore plus clairement si on disait qu'on s'attaque à l'islamisme ? Puisque c'est de cela qu'il s'agit.
On s'attaque à l'islam politique ou à l'islam radical.
Oui, et là aussi, il y a des sémantiques. Qu'on appelle l'islamisme.
Il y a des sémantiques qui ont tendance à glisser.
Et le séparatisme, ça renvoie aussi, par exemple, à des groupes séparatistes en France dans les années 70, 80, au Pays-Bas.
Et qui ne respectent pas les lois de la République.
Mais,
je suis d'accord.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de lutter contre les dérives de l'islam politique qu'on appelle communément l'islamisme. Mais pourquoi ne pas le dire ?
Mais je crois qu'il n'y a pas de problème pour adresser ce sujet. Un communautarisme islamique ou séparatisme, c'est la même chose. En revanche, ce dont on parle, c'est bien d'adresser de manière très concrète ce sujet de séparation. Les premières victimes de l'islamisme radical, ce sont les musulmans. Mmh. Vous le voyez, moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 20 ans en Syrie. Et qu'on a vu monter progressivement.
Mais y compris en France, d'ailleurs, dans les quartiers où, effectivement, il y a une emprise de l'islam politique.
Il y a une emprise, et c'est une emprise par des intérêts étrangers. Donc on est dans la politique, on est dans la géopolitique. On n'est pas dans des sujets réellement religieux. On est dans l'utilisation de sujets religieux pour prendre la main sur des populations, les séparer du reste des Français.
Alors, Emmanuel Macron a donné 4 lignes de force aujourd'hui. Son discours n'est pas terminé, enfin en tout cas son intervention n'est pas terminée, mais d'emblée il a donné 4 lignes de force. Reprendre le contrôle et lutter contre les influences étrangères, meilleure organisation du culte musulman, lutter contre toutes les manifestations du séparatisme, et enfin ramener partout la République là où elle a démissionné, là où elle n'a pas été au rendez-vous. A priori, personne ne pourra lui dire que ce ne sont pas en effet des directions intéressantes. Mais c'est un programme extrêmement vaste. À quelle échéance peut-on penser que on atteindra le but qui est fixé d'en finir avec l'islamisme politique, avec l'islam politique?
C'est un combat en tout cas à lancer. Et vous le voyez, 2 ans après le lancement de cette expérimentation, on a déjà des résultats mesurables sur le terrain. Donc on ne va pas dire que le combat va se mener comme ça très rapidement, mais le simple fait d'avoir ce travail au niveau de l'éducation nationale, au niveau des services sociaux, au niveau de la justice, au niveau de la police, et d'agir de manière concertée, fait qu'en 2 ans, vous divisez par 4 l'effet de violence urbaine. Ça, c'est un résultat mesurable. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est d'élargir sur l'ensemble des quartiers où on observe ce type de séparatisme, de lutter aussi contre les différents trafics, parce que vous avez tout ce qui est trafic de drogue, qui alimente en ressources non seulement effectivement des trafiquants locaux, mais aussi des grands circuits internationaux. Et on sait que le terrorisme s'appuie aussi sur du trafic et sur du blanchiment d'argent, qui peut venir de la drogue, qui peut venir de la prostitution, qui peut venir de la fraude, de la contrefaçon. Donc, il y a un plan d'ensemble qui est à la fois économique, politique et de justice.
On va parler un peu de politique. Donc après les révélations sur la vidéo de Benjamin Griveaux et son retrait, Agnès Buzyn a été donc désignée pour le remplacer au pied levé. En quoi Agnès Buzyn pourrait sauver la campagne, ou c'est trop tard pour changer la donne? Est-ce que vous avez un petit espoir? Il est mince, ou vous dites on peut gagner? Ce qui paraît, qui serait quand même assez.
Ah, moi je pense qu'on peut gagner. C'est une candidate.
C'est pas de la méthode Coué, là. Rattraper quand même le retard qu'avait Benjamin Griveaux, qui était quand même en troisième position.
Benjamin Griveaux, en troisième position, ne faisait pas le plein de ses votes. Là où Rachida Dati, qui ne veut pas faire d'alliance, est au maximum du plein de ses votes. Donc 19%, vous ne pouvez pas devenir maire avec 19%. Ça, c'est le premier élément. Oui. Deuxième élément, c'est une campagne qui joue dans tous les arrondissements. Je vous cite un exemple. Dans le 16e arrondissement, vous avez 3 listes d'inspiration LR. Donc là aussi, vous avez un éclatement total des divisions chez les LR. Donc nous sommes en position de gagner dans le 16e arrondissement, comme nous le sommes dans le 17e, comme nous le sommes dans plein d'autres arrondissements du centre.
Quand c'était Benjamin Griveaux, il n'y avait pas beaucoup de responsables de la majorité pour dire comme ça publiquement on peut gagner. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus optimiste finalement avec Agnès Buzyn que vous ne l'étiez avec Benjamin Griveaux?
Vous ne m'avez probablement pas entendu.
Non, mais peut-être vous étiez l'exception
à ce moment-là.
Qui
moi, je suis
règle,
sur une liste du 16e arrondissement et je sais qu'on peut gagner. J'ai une candidate excellente.
Vous n'êtes pas plus optimiste aujourd'hui avec Agnès Buzyn qu'avec Benjamin Griveaux?
Moi, je vais vous dire. Ce qui s'est passé à Benjamin Griveaux, c'est un camouflet pour la démocratie. Et donc, l'état d'esprit dans lequel nous sommes, c'est de vouloir prendre une forme de revanche. Je vais jusqu'au bout. Ouais. C'est de prendre une forme de revanche par rapport à une élection dont on a voulu nous priver. Et effectivement, on est ravis d'avoir Agnès Buzyn parce qu'on pense que c'est une excellente candidate. Ouais. Est-ce qu'il était obligé de démissionner?
Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire « c'est ma vie privée, je n'ai de compte à rendre qu'à ma famille
» Il aurait très bien pu le dire.
Est-ce que ça n'aurait pas été un acte beaucoup plus fort? Et un refus de finalement plier
il a donné gain de cause à ses délateurs, en quelque sorte.
Je ne crois pas. Parce que je pense qu'à un moment, derrière la personne politique, vous avez l'homme. Oui. Et la façon dont il a été traîné dans la boue, la façon dont il a dû voir son intimité exposée aux vues de tous, moi, je comprends parfaitement. Et je le dis en conscience, il a pris une décision qui lui appartient et on doit respecter cette décision. Et de toute façon, on sait tous très bien que cette vidéo aurait fait parler d'elle, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, elle a tué le moment où on parlait du programme. D'ailleurs, elle n'est pas sortie par hasard le jour où on annonce le programme.
Oui, mais ce n'est pas une façon...
Mais elle empêchait de caler le débat, et il restait plus que 4 semaines. Donc au moment où vous mettez le programme sur la table, vous avez une diversion politique, Oui. Diversion politique qui, évidemment, va attirer le regard, va attirer le commentaire. Moi, j'ai pris un train samedi, tout le monde en parlait dans le wagon-restaurant.
Bien sûr, mais quand vous dites que c'est une atteinte à la démocratie, d'accord, bien évidemment, mais donner gain de cause en démissionnant...
Mais nous
donner
ne donnons pas gain de cause.
Non, mais donner gain de cause
Agnès
au
Buzyn
délateur...
Ne donne pas gain
non, je parle de Benjamin Griveaux. Oui. Donner... gain de cause à ceux qui ont fait ce délit de délation.
Parce que le résultat espéré est atteint, quoi.
Voilà.
Mais pas du tout.
Ah, comment ça
on verra, mais on verra.
On
ne
peut pas dire à la fois c'est une atteinte à la démocratie et on y cède.
On verra, justement, nous n'y cédons pas parce que nous nous sommes organisés pour continuer à mener le combat.
Oui, mais
et donc derrière Benjamin Griveaux, si vous voulez, c'est quelqu'un se relève derrière. Et Benjamin Griveaux, moi, je lui souhaite de pouvoir continuer la politique
est atteinte.
Et de le faire avec succès.
Madame la ministre, l'objectif est atteint par ceux qui ont voulu cette déstabilisation. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Mais j'entends ce que vous dites, mais je ne partage pas ce point de vue parce que personne ne s'attendait à ce qu'en 3 jours, on soit capable de mettre une candidate aussi crédible et aussi porteuse pour Paris. On a vu la réaction des oppositions qui étaient piteuses et qui montraient qu'en fait, elles étaient un peu débordées. Et ça, c'est la victoire de la démocratie.
Là, vous me répondez politique et je vous parle.
Mais c'est la victoire de la démocratie, justement.
D'accord.
C'est de dire, Benjamin Griveaux, il a un parti derrière lui. Il a des collègues, il a des gens qui le soutiennent. Et ces personnes, elles vont continuer à soutenir une autre candidate pendant que Benjamin Griveaux va se reposer et repartira au combat politique. Donc, vraiment...
Vous pensez qu'il a un avenir politique, Benjamin Griveaux?
Ah, je pense que, vous savez... On a toujours un avenir politique.
On va parler du coronavirus. La Chine n'arrive pas à endiguer ce virus. Et la Chine, c'est le premier facteur de croissance dans le monde. Est-ce que c'est inquiétant pour nous? Parce que je crois que pour nous, enfin pour la France, les prévisions de croissance selon le consensus, comme on dit, des économistes, seraient d'1%.
1,2.
Oui. Vous avez raison, les chiffres après sont... Donc, d'abord, première question, est-ce que ça déstabilise l'économie mondiale? Et deux, est-ce que la France, en prévision de ces croissances, on pourrait perdre, je crois,
0,1% selon Bruno Le Maire. Nous avions une prévision qui était à 1,3%.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit réécrire le budget? Est-ce qu'on doit le rectifier?
Oh, c'est beaucoup trop tôt pour dire cela. À ce stade, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous faisons face à une... épidémie. Cette épidémie peut connaître un plateau maintenant et commencer à redescendre. Et dans ce cas, on va avoir une désorganisation de certaines chaînes de production dans 12 semaines, c'est-à-dire au moment où les pièces qui sont fabriquées en Chine vont devaient être livrées. Et donc, toute la question est notre capacité à avoir des alternatives qu'on peut construire dans les semaines qui viennent. Je réunis... vendredi pour une réunion de travail très interne, l'ensemble des responsables de la filière, des filières industrielles pour faire le point et pour voir si nous ne pouvons pas mettre en place des mesures, par exemple pour faciliter les productions, le travail ou la logistique de façon à adresser ce pic de production peut-être nécessaire pendant un moment. Si c'est ça, c'est un impact mesurable et mesuré sur la croissance française et la croissance mondiale. Si, en revanche, l'épidémie se prolonge, et je pense qu'on aura une vision un peu plus claire d'ici une quinzaine de jours, alors, effectivement, c'est un sujet qui est un peu plus profond. Et c'est pour ça que, d'ores et déjà, nous faisons le point avec l'ensemble des filières. Il y a le tourisme, puisque les Chinois sont une population qui dépense beaucoup en France, notamment. Il y a le sujet du luxe, puisque c'est aussi des consommateurs importants, mais pas nécessairement en France et uniquement en France. Et vous avez les chaînes de production, donc est-ce que sur la pharma, est-ce que sur l'automobile et est-ce que sur l'électronique, on sait mettre en place des alternatives avec d'autres pays qui aujourd'hui savent fabriquer ça.
Il y a une bonne nouvelle en matière industrielle. Elles ne sont pas si courantes depuis quelques années.
Il y en a beaucoup de nouvelles
positives
en industrie.
Il y en a une très importante, c'est le groupe français Alstom qui va racheter donc la division transport de son rival canadien Bombardier. C'est une sorte de revanche après l'échec de la fusion avec Siemens qui avait été refusée par la Commission européenne. Précisément, est-ce que cette fois, vous avez de bonnes raisons de penser que la Commission européenne ne mettra pas son veto ?
En tout cas, on va travailler avec la Commission européenne.
Dès aujourd'hui, j'ai vu Bruno Le Maire rencontrer la Commission européenne à la concurrence.
Exactement. Bruno Le Maire rencontrer Margrethe Vestager pour attirer son attention sur ce dossier. L'objectif, c'est de le monter avec le plus d'agilité et d'intelligence possible pour pouvoir obtenir une autorisation de la part de la Commission européenne au regard des règles de concurrence. Il faut savoir que beaucoup de pays européens ont indiqué qu'il était important de faire évoluer ces règles de concurrence pour tenir compte d'un certain nombre de phénomènes. Par exemple, dans le ferroviaire...
Notamment la puissance chinoise.
Dans le ferroviaire, le premier acteur mondial, c'est un groupe qui s'appelle CRRC, qui fait 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui n'était pas présent encore sur le marché européen au moment où la décision Alstom-Siemens avait été rendue, et dont nous avions dit... Vous pensez qu'il n'est pas en capacité de rentrer sur le marché européen? Nous pensons le contraire. Ce qui s'est passé entre deux, c'est qu'il est bien rentré sur le marché européen. Donc, nous avons une situation où, en dynamique, on peut montrer qu'effectivement, la concurrence existe, ne serait-ce qu'avec cet acteur chinois, et que notre intérêt à nous, c'est d'avoir des acteurs capables de développer des offres de même niveau, parce que plus forts, ayant plus de chiffre d'affaires, pouvant mettre en commun des moyens de recherche et de développement. C'est ça que nous allons porter comme message auprès de la commissaire, en disant au fond, pour les consommateurs, ce qui est important, c'est d'avoir les meilleurs groupes possibles qui font les meilleures offres possibles au meilleur prix possible. Et ça, aujourd'hui, on pense qu'on est capable de le prouver.
Et ça serait acceptable pour la France qu'une deuxième fois, la Commission européenne invalide le rapprochement d'Alstom avec une autre grande entreprise pour constituer un géant face aux surpuissances, aux superpuissances, encore une fois, la Chine notamment.
Mais je crois que l'objectif, c'est de montrer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si on fait la preuve que pour le consommateur, c'est gagnant, alors ça serait difficilement compréhensible que la Commission européenne nous explique le contraire. Ouais. Parce que c'est un enjeu de souveraineté économique et puis c'est un enjeu de compétitivité du pays. Mais moi, ce qui me rassure, pour être partie prenante du Conseil compétitivité, où vous avez tous les ministres en charge, notamment de l'industrie, autour de la table, c'est que ces sujets-là, de la concurrence des Chinois, et notamment de la concurrence qui est partiellement déloyale, puisque ces groupes chinois, ils se sont construits sur de la subvention d'État, très souvent. Ils ont accès à des marchés publics auxquels Alstom, Siemens, Bombardier n'ont pas accès. Ils sont soutenus par les subsides de l'État. Donc, ils peuvent assez facilement ensuite se déployer à l'international et proposer des prix ultra compétitifs, parce qu'à la maison... Ils gagnent de l'argent, mais de l'argent qui a été un peu facilité. Donc c'est aussi ce point-là en politique industrielle qu'on veut porter. Et lors de notre dernière rencontre des Amis de l'Industrie, donc qui rassemble 23 pays sur les 27, nous avons eu une communication qui reprenait très exactement ces points, c'est-à-dire les règles de concurrence, pas de problème, mais à condition de prendre en compte les aides d'État et l'accès aux marchés publics des autres États.
Merci beaucoup. Merci Agnès Pannier-Runacher, merci Frédéric.
Merci, à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, et merci à Camille Nérand et à Charlotte Aurien-Tomaca d'avoir préparé cette émission, et merci également à toute l'équipe technique. À très vite. Appel sur